Alors, le message ce matin va s'intituler « S'aventurer sans être à la hauteur ». Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, au chapitre 13. Peut-être que toi, le défi pour ta vie, c'est de t'aventurer comme parent, comme mari, comme ami, comme équipier, comme membre d'une équipe. Vous savez, il y a des situations dans nos vies où est-ce qu'on peut se sentir parfois dépassé. Et ça ne veut pas dire que c'est une constante, mais il y a des saisons dans notre vie où est-ce qu'on peut se sentir dépassé, pas se sentir à la hauteur, sentir que les défis auxquels on a à faire face sont plus gros que nous. Peut-être que c'était une saison que tu as vécue. Ce message va te ramener dans cette saison-là. Peut-être une saison que tu vis ou peut-être une saison à laquelle le Seigneur te prépare. Peu importe, il y aura toujours des temps dans nos vies où est-ce qu'on va être confronté à des défis plus grands que nous, spécialement lorsqu'on est enfant de Dieu, puisqu'on est appelé à suivre les traces de Dieu et il a préparé d'avance des œuvres afin qu'on les pratique, mais afin qu'on lui donne à lui toute la gloire. Et c'est pour ça que s'aventurer sans être à la hauteur, eh bien, on va voir ensemble un homme inspirant à cet effet, c'est Josué. Josué qui est le héros principal du livre qui porte son nom. Et ce livre est vraiment séparé en deux sections, les 12 premiers chapitres et les 12 derniers chapitres. Et on va voir qu'il est question, au début de ce livre spécialement, de l'invasion du peuple de Dieu, d'Israël, sur le territoire de Canaan. Qu'est-ce que c'est une invasion? Et c'est parce que nous, on va voir de l'invasion jusqu'à la conquête de ce pays-là, ce pays que Dieu avait destiné à son peuple. Il voulait qu'il soit conquis par Israël. Donc, l'invasion, c'est une irruption faite dans le dessein de piller un pays ou de s'en emparer. Ici, c'est sur le plan territorial, mais on voit également qu'une invasion peut se faire sur le plan cognitif, par exemple, la diffusion de massives d'idées, d'éléments, etc., que l'on juge nuisibles ou mauvais. On voit, par exemple, qu'il y a des invasions qui sont philosophiques, que, par exemple, une des invasions philosophiques, c'est que la foi, on tente de nous faire croire dans les médias, puis dans les lieux de réflexion, que la foi, ça devrait être quelque chose qui est strictement privé. Mais malheureusement, c'est faux, ce raisonnement-là. La foi n'est pas quelque chose qui est strictement privé. Oui, il y a une dimension privée à la foi, puisque je peux passer du temps avec Dieu sur une base individuelle. Lorsque j'ai été sauvé, par exemple, il m'a appelé à une relation intime avec lui, personnelle avec lui. Il y a effectivement une dimension privée à la foi. Mais la foi n'est pas uniquement relégué à cette dimension-là. On voit que la foi, elle est publique parce qu'elle regroupe des individus. Elle s'exprime, elle se partage. Ce n'est pas quelque chose que je garde simplement pour moi. Une communauté de foi, par exemple, va s'identifier à des symboles, à des célébrations, même à certains rituels. La foi, par exemple, suscite des sains débats, amène la société à avoir des consensus sur des valeurs communes. Elle contribue au bien des autres par son altruisme. Donc, la foi a une dimension collective, communautaire. Il n'y a pas simplement des invasions philosophiques auxquelles on peut faire face dans notre société. Par exemple, ici en Occident, on peut faire face à des invasions idéologiques, comme on l'a vu, puis je vais aller très rapidement là-dessus. Mais au milieu des années 2000, le gouvernement a changé la charte québécoise des droits et libertés et a modifié un article parce qu'auparavant, les parents avaient le droit de choisir pour leurs enfants de quel type d'enseignement confessionnel ils pouvaient avoir à l'école. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a changé, juste modifié l'article pour dire que oui, les parents ont un rôle à jouer sur l'éducation religieuse, mais il doit le faire dans l'intérêt de ceux-ci. En d'autres mots, c'est le gouvernement qui est en train de déterminer si le type d'enseignement religieux qu'on leur donne, c'est dans l'intérêt de nos enfants. Et donc, il y a eu une invasion qui s'est faite là, à ce moment-là. On a aussi des invasions étatiques, on l'a vu par la question de la charte de la laïcité. Et ce que les médias ne disaient pas, c'est qu'il y avait un petit article, tout petit, l'article 37, qui visait à ce que les valeurs québécoises avaient préséance sur nos valeurs religieuses. Et ça donnait au gouvernement de nous contrôler. Et donc, à ce moment-là, c'est une autre sorte d'invasion. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une invasion territoriale parce que Dieu voulait donner à son peuple un territoire pour que Israël devienne une nation lumière, une nation témoin, une nation pour inspirer les autres nations afin que le salut puisse être propagé et pour que les autres nations puissent voir ce que c'est un peuple qui vit avec Dieu comme roi, qui règne au milieu d'eux. Et donc, on va voir essentiellement deux sections dans cette présentation-là. On va voir l'avant-conquête et comment que ça s'est déroulé lors de la conquête. Et donc, et on va essayer, par la grâce de Dieu, de faire le plus de parallèles possible avec la personne de Jésus-Christ, sa mission et les réalités du Nouveau Testament. Et avant qu'on rentre dans ces deux sections-là, je vais vous inviter à vous recueillir. Puis la raison pour laquelle on va se recueillir ensemble, c'est simplement pour que notre cœur soit disposé à entendre ce que Dieu veut nous donner pour méditer cette semaine. Alors, recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remettre nos cœurs parce que tu veux nous parler ce matin au travers de ta parole. Ta parole, elle est vivante, elle est riche. Il y a certainement quelque chose que tu as à nous dire pour que cette semaine, on puisse s'arrêter, s'attarder. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Alors, donne-nous une concentration, un cœur attentif, que tu nous détournes de toute autre préoccupation qu'écouter ta voix. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous avais invité à tourner dans Nombre 13. Et donc, à quoi... La première section, on va voir l'avant-conquête. Et donc, à quoi Josué est-il confiné avant la conquête? Eh bien, il était confiné à porter un nom significatif. Et ça, c'est un petit détail, mais dans Nombre 13, 16, on voit que Moïse donna à Josué, fils de Nun, le nom de Josué. Ça, c'est intéressant. On peut lire ça comme ça, puis passer, ça passe inaperçu. On lit ça, puis on continue à passer au verset 17. Mais... Excusez-moi. Mais c'est comme si Normand venait en avant, puis il me tapait sur l'épaule, puis il vous disait à tous, « Bon, mais maintenant, on ne l'appellera plus Éric, on va l'appeler Enrique. » C'est un peu ça que ça sonne. Parce que là, on dit « Osé, José, tu sais, Josué. » En hébreu, c'est « Yeshua. » Mais « Osé », ça veut dire « que l'Éternel sauve ». Josué, ça veut dire l'Éternel sauve ou l'Éternel est délivrance. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, dit Moïse, là, Moïse ne sera pas identifié à quelque chose ou à un leadership qui repose sur une espérance, mais plutôt sur une affirmation. Josué, tu vas être associé non pas à ce que il est possible, ou il se peut, ou on souhaite de tout cœur que l'Éternel sauve. Que l'Éternel sauve. Il va sauver, parce qu'il est sauveur. L'Éternel est délivrance. Parce que, on va le voir un peu plus loin, Dieu avait appelé cet homme-là à passer d'un homme d'espérance à un conquérant. Mais nous, dans notre tête, oui, Josué, c'est un conquérant. C'est une personne qui a réussi à conquérir ce territoire-là. Mais il n'y avait pas le profil d'un conquérant, par contre. Si on perd de vue ce qu'on dit de lui dans le Deutéronome, dans le livre qui précède Josué, eh bien, on perd de vue qui il était vraiment. Si on fait juste lire Josué puis on passe rapidement le chapitre 1, eh bien, à ce moment-là, on peut penser que c'est un homme qui était d'une foi, là. C'était un homme invincible, qui était un vaillant guerrier. C'est vrai. Mais c'est un homme qui a dû être fortifié parce qu'il faisait face à ses propres limites. Puis on va le voir ensemble. C'est important parce que ça peut changer toute notre perspective et notre lecture de ce livre-là. On voit que Jésus, lui, il s'appelait Emmanuel, mais là, lorsqu'il a entrepris son ministère, on a commencé à l'appeler Jésus. Et c'est le même nom, Yeshua en hébreu. Josué, c'est Yeshua en hébreu. Et c'est pour ça qu'au travers de ce message-là, peut-être que tu vas t'associer ou tu vas t'identifier à Josué, que tu vas te sentir que tu n'as pas été ou tu n'es pas ou tu ne seras pas à la hauteur d'un défi que le Seigneur va te présenter. Et ça, c'est sain que le Seigneur nous présente des défis qui sont au-delà de nos capacités. Parce que ça nous ramène à être témoins de ce que c'est lui le Sauveur. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est plus grand que nous. Et donc, à quoi Josué est-il confiné avant la conquête? Il est aussi confiné à vivre l'annulation de l'invasion originale. C'est quoi ça? C'est que il y a eu, si on veut, deux tentatives d'invasion. La première, c'est, devait avoir lieu lorsque Moïse était aux commandes du pays. Et là, Moïse a envoyé 12 espions. Et sur les 12, il y en a 10 qui ont essayé de décourager le peuple, puis décourager Moïse. Non, on ne peut pas aller là, il y a des géants. C'est impossible, on va se faire dévorer tout rond. Puis non, on a de l'air des sauterelles. Non, on ne peut pas y aller. Mais il y a 2 hommes qui ont dit, puisque Dieu nous y envoie, on va gagner. Il veut qu'on prenne possession de ce pays-là. Et ces 2 hommes sont Josué et Caleb. On voit ça dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Mais Josué et Caleb étaient des hommes animés d'un autre esprit, spécialement Caleb. Lui, c'était le conquérant. Lui, c'était le gars avec l'épée dans les dents. Pendant, on va y aller. On va s'emparer de cette montagne-là. On va les dévorer tout rond. Dieu est avec nous. Lui, là, c'était celui qui avait, excusez-moi l'expression anglaise, c'est lui qui avait la drive. Josué était d'accord avec lui, il voulait y aller. Il avait la foi pour y aller, mais il n'avait pas nécessairement le caractère de Caleb. Mais celui que Dieu a choisi, c'est le plus peureux des deux, c'est Josué. Et donc, Josué est appelé à succéder à Moïse. Mais dans le Deutéronome, le livre suivant les Nombres et le livre qui précède Josué, lorsqu'il est temps de transférer le leadership à Josué, Dieu dit à Moïse, dans Deutéronome 3:28, il dit, « Fortifie-le et affermis-le. » Josué n'est pas fort en lui-même, il a besoin d'être affermi, il a besoin d'être fortifié. Il n'est pas de la même trempe que Caleb. Il a besoin d'un coach pour l'amener à maturité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que successeur de Moïse, ça nous donne une perspective à ce que Dieu, dans son plan, dans sa souveraineté, n'avait pas permis que Moïse rentre dans la terre promise. Parce que comme on voit dans l'évangile de Jean, Jean 1, 17, c'est dit que la loi est venue par Moïse, donc Moïse est identifié à la loi de Dieu, mais que la grâce et la vérité est venue en Jésus-Christ. Et donc, il a voulu que ce soit le successeur, celui qui vient après Moïse, qui prennent possession de la terre promise. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Ce n'est pas par nos propres forces qu'on va accomplir ce que Dieu veut, mais c'est vraiment par celui qui a préparé d'avance toutes choses et qui nous a ouvert le chemin, Jésus-Christ, comme on va le voir dans Josué chapitre 5. Et donc, avant la conquête, Josué était également confiné à être confronté à ses limites, à ses craintes. C'est intéressant parce que sur une dizaine de références à Josué, lorsqu'il est question de ce qui devient le successeur de Moïse, que ce soit Dieu qui parle à Josué directement ou que Dieu parle à Moïse pour qu'il s'adresse à Josué, on voit que dans la majorité du temps, Josué doit être fortifié. On le voit dans Deutéronome 1:38. Deutéronome 1:38, Dieu dit à Moïse, « Josué, fils de Noun, ton serviteur y entrera, fortifie-le. » 3:28, on l'a vu tout à l'heure, « Fortifie-le et affermis-le. » Un peu plus loin, au chapitre 31, il va dire à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Si Josué était un homme courageux, Dieu ne dirait pas « Prends courage. » il l'aurait été déjà. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un de courageux, prends courage. Tu dis félicitations pour ton courage. J'admire ton courage. Non, là, il en avait besoin. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin de se sentir appuyé. Le verset suivant. Qu'est-ce que Josué a besoin d'entendre? Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains point, ne t'effraie point. Cinq choses, cinq éléments qui veulent dire toute la même chose. Hey, Josué, je sais que tu ne te sens pas à la hauteur. Je sais que le défi auquel je t'appelle te dépasse. Je sais que Josué, tu ne te sens pas capable. Je le sais, Josué, mais je suis avec toi. Vas-y. Moi, je me souviens toujours, un de mes premiers spectacles, parce que moi, mon rêve, c'était de devenir une vedette rock, puis un de mes premiers spectacles à l'école secondaire, eh bien, j'arrive juste avant de commencer le spectacle. J'ai une envie d'aller aux toilettes. Mais là, je rouvre les portes, puis il y avait une filée, puis le corridor était pas large, puis il y avait des casiers sur chaque côté, puis c'était très étroit. Puis là, je dis, je ne serais jamais capable de passer au travers cette foule-là, puis ça m'intimidait. Puis il y a un gars, littéralement, qui a ouvert les portes, puis il me poussait avec ses pieds, puis j'ai été propulsé, puis j'ai pas eu le choix, j'ai passé au travers, puis j'étais allé aux toilettes. Mais je me rappelais ce sentiment de me sentir intimidé par la foule. Puis quand je lisais ça, ça me rappelait cette émotion-là, cette intimidation-là. Josué se sentait intimidé. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin de sentir qu'il était protégé, puis appelé, soutenu par Dieu. Deutéronome 31, 23, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Puis à la fin du verset, il dit, et je serai moi-même avec toi. Il répète encore ça. Et on voit au 34:9, vers la fin du Deutéronome, que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Il a répondu à l'appel. Il n'a pas résisté. Malgré ses craintes, malgré ses limites, malgré qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Et savez-vous quoi? C'est sain de ne pas se sentir à la hauteur parce que c'est là qu'on peut donner gloire à Dieu. Moi, il y a eu plusieurs situations où est-ce que je ne me suis pas senti à la hauteur, mais la situation la plus intense, que là, je peux vous dire une chose, là, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un fusible dans ma tête qui a sauté. C'est quand j'ai retrouvé ma femme sans vie. Là, j'ai fait face à ce qu'elle était morte. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « ça y est, je vire fou ». Puis j'ai lâché un cri, là. J'ai beuglé, comme on dit en bon québécois. Puis ce qui me ressaisit, c'est comme si le Saint-Esprit me disait « tu ne peux pas te permettre de virer fou. Il faut que tu sois fort pour tes enfants. » Moi, je me dis, je ne serai jamais capable de passer au travers. Jamais capable. Par moi-même, non. Mais l'Esprit du Seigneur m'a fortifié, puis il m'a amené à être ici présent devant vous. Il m'a amené à passer au travers cette épreuve-là, par sa grâce, et je lui rends tout l'honneur. Mais ce n'est pas suffisant pour Josué. Au premier chapitre de Josué, quand là, on le voit qui va entrer avec l'armée pour prendre possession de la terre promise, dès le 9e verset du premier chapitre, Josué chapitre 1, verset 9, encore une fois, il lui donne cinq paroles. « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Même après avoir été rempli de l'esprit de sagesse, il avait encore besoin d'être encouragé et d'avoir une tape sur l'épaule en disant « Je suis avec toi. » Ça nous parle de la patience de Dieu face à nos limites et nos incapacités. On n'a pas un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois qu'il se sentait à la hauteur de la mission à laquelle il était appelé? Ce n'est pas ce que le texte semble nous dire. mais pas du tout. Alors, à quoi Josué est-il confiné lors de la conquête de Canaan? Il est confiné à faire face à un contexte socio-historique barbare. Vous voyez, vous avez ici la statue du dieu Moloch à l'époque, et il y a comme une ouverture ici avec du feu. C'est ce qui arrivait à cette époque-là, c'était que pour apaiser, ça c'était les peuples qui habitaient dans cette région-là, il y avait beaucoup d'adorateurs de Moloch, et c'était un peuple de barbares, ça s'entretuait. Puis eux autres, ils n'étaient pas soumis à la charte des droits et libertés, puis le respect des droits de l'homme, ça n'existait pas ça. C'était un peuple où est-ce que, lorsque par exemple, un homme convoitait une femme, puisqu'il trouvait ça tellement méchant de voir à ce que cette femme-là divorce son mari pour le marier, bien, il se disait, ce qui est préférable, c'est qu'on tue le mari, elle va devenir veuve, donc là, je peux me marier avec. Alors, c'était comme ça qu'il pensait puis qu'il vivait à cette époque-là. Et ça, c'est documenté dans l'histoire. Mais le dieu Moloch, pourquoi il y avait du feu dans ce genre de grosse statue-là? Eh bien, c'est parce que pour apaiser la colère des dieux, pour s'assurer la protection des dieux, du dieu Moloch en l'occurrence, sa protection, avoir sa bénédiction pour être prospère, être protégé, eh bien, il prenait l'enfant, le premier-né, et il lançait vivant dans le feu pour qu'il brûle. Et là, ça faisait partie de leur culte, de leur religion à ce moment-là. C'était des gens barbares. Mais est-ce que Dieu a demandé de les exterminer en disant, allez-y, excusez l'expression, en sauvage, puis tuez-les toutes, puis égorgez-les toutes, puis il va y avoir du sang qui va gicler, puis ça va être le fun? Non, regardez bien le contexte. Souvent, les gens vont dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, il y a du carnage. Pourquoi Dieu dit de pas tuer, puis ils envoient tuer du monde? Puis il y a une incompréhension là-dessus, une incompréhension parce qu'on a peut-être passé par-dessus ce passage-là de Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20 nous dit que quand vous irez attaquer une ville, vous proposerez d'abord aux habitants de se rendre sans combat. S'ils acceptent et ouvrent les portes de la ville, ils seront tous soumis à des travaux obligatoires à votre service. Mais s'ils n'acceptent pas et préfèrent se battre, vous assiégerez la ville. Quand le Seigneur, votre Dieu, la livrera en votre pouvoir, vous y tuerez tous les hommes. À ce moment-là, il propose en disant, nous, on s'en vient, on vient prendre possession de ce territoire-là, vous acceptez de nous être soumis, ou, si vous acceptez pas, nous, on rentre, puis on va se battre. On va prendre possession parce que Dieu nous a donné ce territoire-là. Et donc, la balle était dans le camp de l'ennemi. L'ennemi avait le choix de se soumettre ou de se battre. Et donc, à ce moment-là, toutes les batailles qu'on a vues ont été, ça a été un choix des adversaires parce que Dieu a demandé à son peuple d'agir de telle façon. Et donc, Josué, il fait face à ce contexte-là et ça va l'amener à vivre des victoires et une défaite. Et dans la vie chrétienne, il n'y a pas que des victoires. Ça ne veut pas dire que parce que l'Esprit de Dieu et la force de Dieu est avec nous continuellement, qu'on va ne faire face qu'à des victoires. Il va y avoir des temps qu'on va vivre des défaites parce qu'on est humain, on a nos limites, on a nos manquements, puis on va voir où est-ce qu'ont été les failles, où est-ce que là où est-ce que Josué et le peuple Israël ont manqué. Et on va voir également qu'il y a eu des victoires, évidemment. Et donc, dans le chapitre 1, on voit par exemple l'appel de Dieu sur la vie de Josué. On voit que Dieu lui donne une parole et une promesse. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse au verset 3. » Et donc, Dieu est avec eux. Dieu veut que ils puissent prendre possession du pays. Et on voit au travers ce chapitre 1 les préparatifs de la conquête de Canaan, la terre promise. Et au chapitre 2, on envoie encore une fois des espions pour explorer la ville de Jéricho. Et on voit qu'ils sont protégés par une prostituée. Ils vont se réfugier chez une prostituée pour demeurer en vie. Et là, elle les garde. On voit au chapitre 2, verset 16, elle va dire à ces espions-là, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Et ça, c'est un clin d'œil sur la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été justement enseveli et le troisième jour est ressuscité pour justement entreprendre la mission qu'il avait de préparer ses disciples à l'évangélisation et la formation de disciples. Et on voit après ça, D'autres exemples qu'on peut relier au Nouveau Testament, au chapitre 2, 17 à 19, on voit que ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous acquitterons du serment dont tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache le cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères, toute ta famille. » Parce qu'elle disait, « Puisque je vous ai protégé, quand vous allez venir attaquer la ville, eh bien, nous, on ne veut pas périr parce qu'on a quand même protégé votre vie. » Alors, il dit, « OK, mets le fil rouge. » Et ça, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Et lorsqu'on a mis notre foi dans ce qu'il a versé son sang pour nous, eh bien, à ce moment-là, on est protégé puis on ne fera pas face à la condamnation qui doit s'abattre sur tous les hommes qui n'ont pas mis leur foi dans ce sacrifice en Jésus-Christ. Et donc, on voit par la suite, au chapitre 3 et 4, ils doivent traverser le Jourdain, qui est un cours d'eau, pour pouvoir aller prendre possession de ce pays-là. Et ils vont ériger un genre de monument commémoratif avec des pierres. Et ça nous parle justement de se rappeler. Que ça soit que c'était Dieu l'avait mis là pour se rappeler que, garde, j'étais avec vous, puis je vous ai amené à conquérir ce pays-là. C'est moi qui vous ai appelé. Et dans nos vies, il y a justement des points de repère dans notre cœur, dans notre mémoire, où est-ce qu'on a vu Dieu nous amener à vivre des victoires, des délivrances, qui nous a sortis d'un piège, qui nous a surpris, puis qui nous a amenés à voir qui est avec nous, puis qu'on n'est pas sans Dieu dans ce monde. Et c'est pour ça que le psaume 105, et à deux autres endroits, va nous dire, il va répéter ce passage-là. Le psaume 105 nous dit, « Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. » De se rappeler ce qu'il a fait, parce que quand on vit une situation problématique, où est-ce qu'on fait face à quelque chose qui nous dépasse, lorsqu'on est appelé à s'aventurer dans quelque chose qui n'est pas à notre portée, à notre hauteur, eh bien souvent on se dit « ça y est, ce coup-là, le Seigneur m'a abandonné » ou « ça y est, ce coup-là, le Seigneur ne peut pas être au rendez-vous, c'est trop gros, c'est trop impossible ». Mais il faut se rappeler qu'il y en a eu des situations avant, puis il nous en a sorti. Mais on pense toujours que la situation devant nous est pire. Même si elle l'est dans les faits pour Dieu, elle n'est pas pire. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser Dieu. Rien ne peut dépasser. Nous, ça peut nous dépasser souvent, mais pas Dieu. Puis on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, puis on ne peut pas limiter Dieu à notre perception à nous. On doit lui faire confiance, comme Josué lui a fait confiance. On voit dans Josué chapitre 5 que le peuple se fait circoncis, puis célèbre la Pâque. Donc, il s'identifie comme étant le peuple de Dieu. Puis comme on l'a chanté, et comme on le voit dans Éphésiens 1:6, on est appelé comme peuple de Dieu à célébrer la gloire de sa grâce, à célébrer la gloire de ce qu'il nous donne, ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous amène comme délivrance, comme protection. Tout ce qu'il nous accorde, on ne le mérite pas. Et au verset 13 du chapitre 5, quand Josué s'apprête à aller conquérir avec le peuple cette ville de Jéricho, eh bien, il fait face à un homme qui a son épée dans la main. Et puis, Josué, il demande, il dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il répond, « Non. » Mais là, je ne comprends pas. Tu as compris? Je t'ai parlé en hébreu. Tu me répondis en hébreu, mais es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Non. Josué, ce n'est pas ça que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes ici que c'est moi qui prépare d'avance toutes choses. Et même parce qu'ici, on le voit qu'au verset 14, Josué a tombé le visage contre terre, puis il a adoré et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Il reconnaît que c'est Dieu. Et ici, c'est Jésus-Christ, puisque lorsque Jean, dans l'Apocalypse, s'est agenouillé puis s'est mis à adorer l'ange, il dit non, tu ne peux pas faire ça à Dieu seul. Lui, il s'est laissé adorer. C'était vraiment Dieu qui était là. Et ce qu'il est en train de lui dire, puis il dit, enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est saint. Il est en train de lui dire, regarde, tu es le successeur de Moïse. Tu vis une expérience semblable à celle de Moïse. Je t'ai appelé. Mais rappelle-toi une chose, c'est moi qui prépare d'avance les œuvres. Et c'est pas parce... C'est même, tu ne gagneras pas parce que je t'ai fortifié, tu ne gagneras pas parce que je t'ai rempli de sagesse, tu ne gagneras pas parce que je t'ai équipé pour faire le combat, Tu vas gagner parce que j'ai préparé d'avance les œuvres, puis je ne veux pas que tu penses que c'est parce que tu es devenu fort maintenant que tu vas gagner. Mais parce que moi, j'étais là au rendez-vous, puis que je t'ai appelé à mon rendez-vous. Qu'est-ce que Jean, chapitre 12, versets 25 et 26 nous dit? Jean 12, 25 et 26, là où je suis, c'est là qu'il va être mon disciple. Et c'est notre responsabilité. Dire, où est-ce que tu te trouves dans ce que je vis, Seigneur, pour que je me colle à toi, puis que je te suive? C'est ça notre défi dans la Nouvelle Alliance. Et dans chapitre 6, on voit que je passe beaucoup de détails. Écoutez, c'est un survol de 12 chapitres en quelques minutes. Ils font le tour de la ville à chaque jour, puis le septième jour, ils tournent au verset 4 7 fois, puis là, ils se mettent à sonner de la trompette, ils se mettent à crier, à louer Dieu, et là, les murailles s'écroulent, et ça, c'est un exemple qu'on peut voir sur deux dimensions, comme on voit dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5, 2 Corinthiens 10, 4 et 5, il va effondrer des murailles de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, et donc, il y a des raisonnements qui nous tiennent captifs. Et le Saint-Esprit, sa parole, veut briser ces raisonnements qui nous empêchent de marcher par la foi, de lui faire confiance, d'honorer Dieu. Mais aussi, ça parle du jugement à venir. Où est-ce qu'il y a des gens qui vont vivre un châtiment, comme on voit dans Apocalypse chapitre 20, verset 7 et suivant, Apocalypse 20, 7 et suivant. Il va y avoir un jugement où est-ce que des gens vont être condamnés. Et ceux qui vont être sauvés, ce ne sont pas parce qu'ils ont moins fait de mal, c'est parce qu'ils ont mis leur foi dans ce que Jésus-Christ a pris leur condamnation à leur place. Dans Josué chapitre 7, on voit la défaite d'Aï. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils gagnent, ils sont des conquérants. Mais ils arrivent à Aï, puis il y a une défaite. Puis ils se disent, comment ça? On a tellement gagné de manière puissante. Comment ça se fait qu'on a une défaite? Mais c'est parce que Dieu avait demandé de ce que personne puisse voler ou prendre des objets d'or ou des objets précieux, ou des objets de valeur. En disant, vous allez prendre possession de la ville, mais tout ce qui appartenait à ces gens-là, touchez-y pas, prenez-le pas comme un trésor. Puis il y a quelqu'un qui avait convoité justement des objets, puis les avait cachés, puis Dieu a enlevé cette bénédiction, si on veut, ou a enlevé la force de gagner à cause de ça. Et parce que c'était une tentation pour eux, écoutez, ils étaient 40 ans dans le désert, là. Tout ce qu'il y avait, c'était pas le dernier cri, là. Il n'avait pas acheté ça à la boutique chez Simons ou, c'était des vieilles affaires. Même si ça ne s'était pas beaucoup usé, c'était quand même des vieilles affaires, là, à ce moment-là, là, t'sais. Mais là, à ce moment-là, ils ont dû éliminer cette personne-là. Et ça nous montre que quand on vit, on pratique le mal dans le secret, eh bien, ça nous affecte nous. Mais ça affecte aussi le peuple de Dieu, parce que quand un membre souffre, tout le reste du corps souffre. Et à ce moment-là, Dieu nous appelle à la transparence et à s'en remettre à lui dans nos faiblesses. Dans Josué chapitre 8, ils retournent, Dieu les appelle à retourner puis réattaquer cette ville-là, la ville d'Aï. Et là, ils vont connaître la victoire. Mais dans 8:1, qu'est-ce que ça nous dit? L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Il revient, il a vécu la victoire. Même s'il y a eu la victoire, le focus de Josué est où? Sur la défaite. Peut-être toi, dans ta vie chrétienne, tu as eu des victoires, mais tu as flanché sur certains plans de ta vie. Puis tu regardes beaucoup plus à tes défaites puis tes manquements que tu peux regarder à Jésus-Christ. Est-ce que tu passes plus de temps à méditer et réfléchir sur tes défaites ou tu passes plus de temps à savourer la gloire de la grâce de Dieu? Et c'est là qu'il dit, il est en train de dire à Josué, « Vois pas tes défaites du passé comme une référence. » Il dit, l'Éternel dit à Josué, « Ne crains point, ne t'effraie point. » Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi et monte contre Aï. Voici, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Et donc, il l'amène maintenant, tu vas reprendre le terrain que tu n'as pas gagné et je vais t'amener à le conquérir. Mais, une autre déception qu'on peut voir, qu'on peut lire, c'est au chapitre suivant, chapitre 9. Josué et le peuple sont passés, je pourrais dire, dans le contexte, un cèdre ou un cactus, pour ne pas dire si on fait passer un sapin, là. Mais parce que les Gabaonites, eux autres, ils disent, « Hey, attends une minute, là, le peuple là, qui a traversé la mer Rouge, là, qui a été ouverte par leur Dieu, puis qui a enseveli là, les Égyptiens, là, puis ce peuple là, qui a conquis là, Jéricho, la grande Jéricho, puis la ville d'Aï, puis c'est un peuple, oh attention, quand ils vont se rendre chez nous, on va être massacrés, ça n'a pas de bon sens, jamais capable de leur faire face. Fait qu'on va faire à quoi qu'on arrive de loin, puis qu'on veut être avec eux, puis que c'est nos amis, puis qu'ils nous intègrent, puis ils n'ont pas consulté Dieu, puis ils ont été naïfs, puis ils ont dit, OK, venez-vous-en, c'est correct, bon, parfait. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils se sont fait passer justement un cactus. Puis là, il dit, ouais, mais on est pris par notre engagement. Là. Fait que le Seigneur, ce que ça nous montre, ça, c'est que des fois, quand on ne consulte pas l'Éternel, puis qu'on est trop confiant de ce qu'on pense comme étant vrai ou ce qui étant la bonne chose, puis ça ne peut nous amener à prendre des mauvaises décisions qui ont des conséquences. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, de prendre des décisions, par exemple, financières, puis ça m'a obligé d'aller dans ma marge de crédit parce que j'avais simplement... Parce que ça semblait une bonne affaire, ou ça semblait un bon contexte, mais moi, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Et si j'avais consulté l'Éternel, peut-être que j'aurais pas eu ces conséquences-là, pas juste peut-être, assurément. Et donc, on voit au chapitre 10... Une victoire contre une coalition de 5 rois. On voit au chapitre 11 qui ont réussi à conquérir le nord. Et on voit la conclusion de cette première section-là, au chapitre 11, avec le verset 3. Parce que le chapitre 12, c'est comme un peu le générique avec tous les lieux qui ont conquis. C'est un peu comme un résumé là, des villes qui ont conquis. Mais le chapitre 11, verset 3, dit ceci. « Josué conquit tout le pays exactement comme... L'Éternel l'avait prescrit à Moïse, puis il le remit en toute propriété au peuple d'Israël, une part par tribu. Toute guerre ayant cessé, le pays connut la paix. » Parce que l'objectif pour conquérir, c'était qu'il puisse y avoir la paix, qu'il puisse y avoir justement la présence de Dieu qui règne au milieu d'eux pour inspirer toutes les autres nations à venir adorer l'Éternel Dieu. Et donc, Josué a conduit les enfants d'Israël à la victoire après avoir traversé le Jourdain. Et ça nous enseigne que Jésus nous donne la victoire sur le péché. Romains chapitre 6, verset 14, Romains 6, 14. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant, on a intérêt, comme on l'a chanté aujourd'hui à plusieurs reprises, de vénérer cette grâce de Dieu parce qu'on est appelé à la célébrer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Josué, donc, a été ce conquérant, mais il n'était pas à la hauteur. Il avait besoin d'être fortifié, il avait besoin d'être encouragé, il avait besoin d'être affermi. Et dès qu'il vivait une défaite, il avait encore, même, il ne pouvait pas juste savourer cette victoire-là, il avait besoin encore. Et Dieu ne s'est pas lassé de le fortifier. Il n'a pas reproché, il a dit, fortifie-toi. Il a dit, je suis avec toi. Il a rappelé qu'il était avec lui, mais il n'a pas fait sous forme de reproche. Et ça ne vous inspire pas à vous approcher de Dieu quand vous faites face à un défi, vous faites face à une situation qui vous dépasse. Et là, on voit justement au chapitre 12 la liste des trophées, si on peut dire. Et donc, Josué a amené son peuple à vaincre les opposants à Dieu. Mais ce qui est intéressant dans Josué, c'est que Josué, on peut voir, c'est un peu comme Timothée. Timothée qui était un homme qui se laissait intimider. Et Paul a dû le fortifier lui aussi. Et c'est ce qu'il dit, dans 2 Timothée 1, 7, il dit, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Alors, c'est pas, il ne parle pas juste à Timothée, il parle à chacun de nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu quand on a été éclairé pour découvrir que le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ qui est mort, crucifié puis ressuscité pour nous. Eh bien, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est pour ça que pour surmonter ce qui nous dépasse, on ne peut pas s'appuyer sur ce qui est en nous, mais sur des ressources qui sont hors de nous. Sinon, ce que nous dépasse ne sera jamais à notre portée. Si on met notre espérance puis notre foi dans un Dieu qui est plus grand que nos obstacles, eh bien, il va nous amener à passer au travers puis dépasser nos obstacles. Mais si notre espérance, elle est sur nous, ou si notre désespoir est face à nos obstacles, eh bien, on ne pourra pas goûter la victoire, on ne pourra pas goûter le fait que Dieu, Jésus, nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 23 nous dit que lorsque l'Éternel est notre berger, lorsqu'on est en train de suivre le Seigneur, lorsqu'on est dans ses voies, dans sa volonté, il dit, « Tu n'as pas à craindre aucun mal, parce que je suis avec toi. » C'est pour ça, en conclusion, eh bien, on a vu l'effet saillant de l'avant-conquête puis de la conquête. Et la prochaine fois que je vais venir ici pour partager la parole de Dieu, je vais parler de l'après-conquête. Et donc, j'inviterai les musiciens à s'avancer. On a vu que Christ a manifesté sa grâce envers un homme fragile qui avait besoin régulièrement de se faire rassurer. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas choisi le plus brave, il n'a pas choisi Caleb, il n'a pas choisi celui qui l'avait publiquement honoré, mais il a choisi, dans ce cas-ci, le plus peureux des deux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours ça qu'il va faire, mais dans l'histoire qui nous concerne, c'est ça qui est arrivé. Puis, ce que le Seigneur te demande, à la lumière de cette histoire-là, de ce récit historique-là, bien, sois transparent devant lui, appuie-toi sur lui, recherche-le, puis attends-toi à ce qu'il te visite. Remets tes craintes à Dieu, puis suis-le dans les défis qu'il y a pour toi. Toi, tu n'as pas été témoin avec tes yeux de l'invasion d'Israël sur la terre de Canaan, mais par contre, tu peux être témoin de l'invasion de l'Évangile dans le cœur des gens de ton milieu, dans le cœur des gens de ta ville. Puis pour ça, peut-être que le Seigneur te place devant un défi qui te dépasse, qui est hors de ton contrôle. La question que tu dois poser, c'est quel pas que tu m'appelles à faire, Seigneur? Où est-ce que tu m'amènes? Où est-ce que tu es pour que je te suive? Puis c'est pour ça qu'on va se recueillir pendant qu'Alexandre joue de la guitare. On va se recueillir et on va remettre notre cœur au Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, à quel endroit dans ta vie tu me dis « suis-moi »? Où est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que j'entende, Seigneur? Quelle est ta... Est-ce que tu as une parole pour moi qui va me faire avancer, qui va ouvrir mon esprit, mon intelligence pour que je te reconnaisse, je te discerne dans ce que je suis en train de vivre? Comme c'est dit dans le Proverbe 3, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. » Seigneur, je sais que quand tu vas m'amener à répondre à ce défi où est-ce que je ne me sens pas à la hauteur, c'est là que je vais être inspirant pour les gens autour de moi, pour les gens de mon milieu puis pour les gens de cette ville. Seigneur, quand j'ai perdu mon épouse, Seigneur, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, je sais que tu te sers de moi maintenant pour donner de l'espoir à des gens. Il n'y a aucun défi, Seigneur, qui te dépasse. Seigneur, le défi est dans notre cœur, mais on veut s'appuyer sur toi. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'as pas reconnu qu'il a subi ta condamnation, qu'il a pris ta place, viens à lui. Viens simplement à lui en disant, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis fautif devant toi. Je sais que je ne suis pas à la hauteur de ta personne, de tes exigences. Mais maintenant, je réalise que tu ne t'attends pas, Seigneur, à ce que je fasse mieux, mais que je reconnaisse que Jésus-Christ a pris ma place à la croix, qu'il a subi ma condamnation, qu'il a subi ta colère. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas une religion, ce n'est pas de respecter des lois, mais c'est que tu as pris ma place. Et maintenant, je veux faire ce pas, me laisser sauver par toi, pour maintenant marcher dans une nouvelle identité, une nouveauté de vie, où est-ce que tu vas me diriger, tu vas me conduire, tu vas m'éclairer. Et si tu as fait cette demande au Seigneur pour la première fois, pense-en à un ami, pense-en à quelqu'un à côté de toi. Si tu es à l'écran, appelle-nous, communique-nous par un courriel. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, il n'y en a pas d'autre sauveur. Merci d'encourager cette Église, de faire du bien à cette Église, de l'utiliser pleinement, et pas simplement en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, que cette Église puisse relever les défis que tu l'appelles à relever. Je te le demande dans le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Bonne semaine. Merci.